Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une sorte d'ovni dont nous allons parler ce matin, une image qui ne serait peut-être pas du goût de mes invités tant ils en sont férus, et pourtant, quand la mode est omélopée saccadée, chantée souvent à plusieurs voix et en polyphonie, et avec de multiples instruments, ce chant à l'unisson, chanté a cappella soit sans instrument, donne l'impression d'être sorti d'un autre âge. J'ai nommé le chant grégorien, un chant multiséculaire dans l'Église venu du fond des âges, qui par sa résistance et sa constance au sens propre comme au sens figuré, nous parle peut-être un peu de l'éternité. À la découverte du chant grégorien, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité, il y a du monde et c'est tant mieux, pour nous prendre par la main, pour nous faire découvrir ce beau chant. Clarisse Chantelot, vous êtes responsable donc de l'atelier grégorien de l'Institut catholique de Toulouse et vous animez un chœur à la basilique Saint-Sernin et à la cathédrale Saint-Étienne. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près de Rumico, s'il vous plaît. Pierre-Marie Barthès, vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, organiste à la cathédrale Saint-Étienne et ancien directeur national puis Midi-Pyrénées de la musique liturgique. Bonjour.
Bonjour à vous.
Et Ludovic Leguen, vous êtes maître de chœur grégorien de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Bonjour.
Bonjour.
Pareil, tous près du micro. Voilà, pour des maîtres de chœur, quand même, c'est un comble. Alors, on va donc avec vous partir à la découverte de ce chant, dont beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers, sauf peut-être ceux qui sont allés parfois faire des séjours dans certaines abbayes. Et je propose tout simplement qu'on commence par écouter un extrait. Clarisse Chantelot, que vient-on d'entendre ?
On vient d'entendre une antienne qui se chante en général aux vêpres, juste avant le psaume, qui est la première forme de chant sacré qu'on retrouve depuis que les psaumes existent, c'est-à-dire probablement depuis l'époque du roi David. Et c'est ce chant sacré qui est la proclamation de la parole divine avec une musique qui le soutient, qui permet à la fois que la diffusion du chant soit audible très facilement de loin et que la mémorisation du texte soit plus naturelle, que tout le chant liturgique chrétien s'est développé par la suite.
Alors Pierre-Marie Barthès, vous me disiez en préparant l'émission, le chant grégorien ce n'est pas vraiment un chant, c'est un... Voilà, dites-nous ce que vous vouliez nous dire, c'est un entre-deux de la voix, même vous avez cette expression qui je crois n'est pas de vous.
Oui, cher ami, le chant grégorien est un entre-deux de la voix. Cette expression, on la doit au regretté et vénéré Père Joseph Gelinot. C'est un entre-deux de la voix. Quelque part, le mot chant grégorien serait peut-être inexact, car à la base, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que Dieu nous donne et que nous remettons à Dieu, eh bien, elle doit s'exprimer selon un mode d'expression autre que le mode naturel par lequel nous exprimons ce matin en cette émission, qui est l'ordre du parler. Et donc, le chant grégorien va être une surélévation de la voix, un entre-deux de la voix, et très souvent, on use de ce mot, qui est le mot de cantillation. Voilà.
Alors, avant qu'on parle un peu de l'histoire de ce chant, moi j'utiliserai ce terme par commodité, où est-il encore chanté, hormis dans vos chœurs et dans vos ateliers ? N'y a-t-il encore que quelques abbayes bénédictines qui utilisent ce chant, Pierre-Marie Barthès ?
Alors, c'est vrai qu'il y a un nombre assez conséquent d'abbayes en France qui pratiquent le chant grégorien dans l'ordre carthusien. Donc les chartreux ont conservé l'intégralité du chant grégorien dans l'expression de leur liturgie. Beaucoup d'abbayes bénédictines avec Bien sûr, on pense aussitôt à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, quelques abbayes cisterciennes, mais de plus en plus, il y a comme un renouveau qui se produit dans l'Église de France avec cette volonté et ce désir d'exhumer ce trésor de l'Église, de le redonner et d'en faire la matrice de la célébration. Et il est important de considérer ceci, c'est que le chant grégorien, même si je vous ai dit que ce mot ne me satisfaisait pas, le chant grégorien est la base de tout chant sacré dans l'Église. Et pour celui qui voudrait se mettre, s'atteler à un travail de composition pour la liturgie en français, dans les langues vernaculaires, eh bien, il faut comprendre le geste de celui qui a composé ces grandes mélodies grégoriennes qui se sont forgées sur bien plus d'un millénaire.
Alors aussi, autre précision, une fois de plus avant de faire une page d'histoire, on dit qu'en fait c'est un peu, entre guillemets, hein, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est le chant liturgique officiel de l'Église catholique dans le rite romain, Ludovic Le Guen, ou je ne sais pas qui veut répondre à ça, ça veut dire quoi, chant liturgique officiel ?
Chant liturgique officiel, ça veut dire que c'est le chant qui a été créé par l'Église. Alors, souvent de manière anonyme, hein, c'est le chant qu'elle a créé, qu'elle a nourri, qu'elle a entretenu, qu'elle a enrichi, qu'elle a conservé, qu'elle a transmis, et qui est finalement le commentaire par l'Église, donc commentaire officiel par l'Église, de la Bible, puisque le substrat, le texte qui est utilisé dans le chant grégorien est essentiellement tiré de la Bible, particulièrement le livre des psaumes. D'accord, donc c'est la manière dont l'Église interprète le chant des psaumes ou le texte en question et le livre à notre méditation.
Alors à propos de l'histoire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de mystères. Moi j'avoue, hein, je suis un néophyte complet, donc ça va rendre service aux auditeurs et peut-être un petit peu moins à vous. Mais on peut lire, est issu du chant vieux romain, du chant gallican. On peut lire que Grégoire le Grand, donc 540-600, serait donc le père du chant grégorien. Et j'ai aussi lu la chose suivante. Il serait né au 7e siècle, à la confluence, au moment de l'unification de l'Empire carolingien, et ça serait là, on va dire, l'œuvre de l'Église et de Pépin le Bref pour accorder un chant chrétien au chant des Gaules. Alors, quid de cette origine mystérieuse, Pierre-Marie Barthès ?
Eh bien, c'est très simple et très compliqué en même temps, comme vous l'avez dit. Le chant grégorien, donc, c'est un outil qui permet aux communautés de se fédérer afin de célébrer. Jusqu'en 313, l'édit de Constantin, l'Église, c'était, on pourrait dire, l'Église des catacombes. Et puis, peu à peu, à partir de l'édit de Milan, l'édit de Constantin, les communautés ont pu célébrer au grand jour. Mais chacune, selon ses localités géographiques et avec ses expressions. Et puis, il y a eu un monsieur très malin, qui était Pépin le Bref. Et ce monsieur très malin, qui était Pépin le Bref, s'est dit qu'il était à la tête d'un empire énorme, mais un empire chrétien. Et donc, pour fédérer ces diverses contrées géographiques de son empire, pourquoi ne pas utiliser l'Église et dans son essence qui est la célébration. Et donc Pépin le Bref s'est dit « Ah là là, il faut unifier un petit peu tous ces répertoires ». Alors il y avait le répertoire bénéventin, le répertoire gallican, le répertoire vieux romain comme vous l'avez ainsi cité. Et donc on va essayer de fédérer ceci.
Et l'Église s'est laissée faire ?
L'Église s'est laissée faire parce que tout de même vous avez cité le fameux pape Grégoire le Grand qui a donné son nom chant grégorien, mais qui n'a jamais écrit une seule note de musique. D'ailleurs, à son époque, les notes de musique n'existaient pas. Et donc, l'intuition est née, c'est vrai, de Grégoire le Grand et a été relayée par un homme politique qui était Pépin le Bref. Et à partir de là, eh bien, le répertoire grégorien a pu s'avancer sur un chemin de fédération du répertoire.
Alors, on peut donner quelques précisions quand même à propos du chant grégorien aussi. Je l'ai fait au début de l'émission dans mon introduction. Mais donc, c'est un chant a cappella, c'est ça ? À l'unisson, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre caractéristique, Clarisse Chantelot ?
Alors on peut donner aussi comme caractéristique qu'il est normalement en voix égale, c'est-à-dire qu'on ne chante pas à l'octave, mais avec des voix qui sont toutes sur la même note, par exemple, d'une part des voix de femmes et d'autre part des voix d'hommes, plutôt que les deux ensemble.
Et pas de polyphonie, c'est ça? Pas de chant mixte, entre guillemets, et pas de polyphonie.
Alors, c'est un petit peu particulier, comme Pierre-Marie l'a dit tout à l'heure à propos de la définition du chant. Donc, sans rentrer dans des détails trop complexes, je voudrais faire remarquer quand même que ce chant est créé sur la résonance des édifices. Donc, effectivement, il n'y a pas de polyphonie au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas chanter plusieurs notes différentes, différentes hauteurs, simultanément, mais par la résonance induite dans les voûtes, on va avoir des sons qui vont se prolonger et faire entendre plusieurs notes en même temps, c'est-à-dire que la résonance persiste au moment où les chanteurs sont passés à une autre hauteur.
Alors je propose qu'on réécoute un morceau de l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, comme ça on va se remettre un peu dans, on va se remettre dans l'esprit. À propos de l'histoire du chant grégorien, je vais vous donner la parole un instant. Vous aviez une réaction, pardon.
Pardon, je voulais compléter sur les caractéristiques du chant grégorien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, et on reviendra, je pense, dans la partie spiritualité, c'est la liberté qui est à l'intérieur. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de rythme, mais il y a un rythme qui est libre. Et comme le disait très bien Père Barthès juste un instant, il est tiré du texte. Donc c'est l'expression consacrée, c'est le rythme libre oratoire. C'est le texte qui a produit la musique d'un côté, puis aussi le rythme en même temps. Et ce rythme, il n'est pas mesuré comme on peut l'avoir dans la musique classique ou la musique moderne, qui en est issue d'ailleurs. Toute la musique moderne est issue du fond grégorien. Dans sa technique, on va dire, mais vraiment cette liberté permet effectivement d'avoir cette prière. Finalement, le chant grégorien est en prière. L'une des caractéristiques vraiment essentielles, je pense, de ce chant, c'est effectivement cette liberté qui est tirée du texte et qui est l'expression de ce texte.
Il y a un moine français qui est fameux à propos du chant grégorien, c'est donc Don Guéranger. Là aussi, probablement que certains connaissent très bien et d'autres moins. Cet homme est né en 1805 et mort en 1875. Il a été donc le refondateur de l'abbaye de Solesmes et restaurateur du chant grégorien en France. Est-ce à dire que le chant grégorien avait besoin d'être restauré? Alors on fait un très grand saut dans l'histoire. Peut-être que vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière, Pierre-Marie Barthès ou qui veut. Il y a eu des hauts et des bas dans le chant grégorien au long de l'histoire de l'Église, même si c'est depuis longtemps, semble-t-il, donc le chant liturgique officiel de l'Église catholique.
Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas parce que c'est une matière vivante. Et donc, ce serait inquiétant si le chant grégorien avait été immuable. Ça voudrait dire que ce serait un objet desséché et desséchant. Et c'est vrai qu'au fil des siècles, donc on pense en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, le chant grégorien est devenu le plein chant. Le plein chant. Alors attention à l'orthographe du mot plein chant. P-L-A-I-N, et non pas P-L-E-I-N.
Et ça veut dire ?
Planus cantus, c'est-à-dire un chant plat, un chant...
Quoi, atone, c'est ça ?
Non, peut-être pas atone, ni rectotono, mais un chant qui s'était écrasé, on pourrait dire, voilà. Un chant qui s'était écrasé, on scandait chaque note, et parfois avec le garde-suisse, avec ça, le barde, c'était tout un univers. Et aussi, les partitions étaient considérablement altérées. Nous sommes dans un monde modal, c'est-à-dire un monde qui, il faut s'imaginer un clavier de piano sans aucune touche noire, peut-être une seule, la touche du si bémol, c'est tout. Et donc, on avait un petit peu coincé le chant grégorien dans cette expression de la tonalité, do majeur, sol majeur, fa mineur, etc. Et on avait altéré considérablement les partitions. Et fort heureusement, vous l'avez cité, donc Don Prosper Guéranger.
Un Français, donc.
Voilà, lorsque l'abbé Guéranger, lorsqu'il veut embrasser la vie bénédictine, elle avait été mise à bas, cette vie bénédictine, par les aléas de la Révolution française. Et donc, avec quelques compagnons, il restaure cette vie dans le petit prieuré moriste, le long de la Sarthe, Saint-Pierre de Solesmes. Et il a compris, Don Guéranger, que restaurer la vie bénédictine, c'est d'abord restaurer aussi la manière de célébrer, et l'outil, un des outils essentiels pour la célébration, c'est le chant grégorien. Et donc, il va lancer des générations de moines, jusqu'à aujourd'hui encore, en 2021, sur ce travail considérable. On pense à Don Moquerot, Don Cardine, etc.
On peut aussi dire qu'il a été soutenu par l'Église aussi, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai lu.
Ça a très été difficile aussi.
Ah bon, d'accord. Il a fini par être soutenu par l'Église, alors.
Voilà, parce que, vous comprenez, l'Église, son siège est à Rome, et donc Guéranger, vous l'avez dit, était français. Et donc, ça n'a pas été très, très, très facile que Rome agrée le travail lancé en France par les moines de Don Guéranger.
Pourquoi le fait d'être français, en quoi ça a été un obstacle? Vous avez l'air de...
Ah bien, bon, il y avait quelques rivalités qui sont tout à fait normales, voilà. Mais ça n'a pas été très aisé, mais aujourd'hui, c'est vrai que le travail de Don Guéranger et de toutes ces générations de moines solesmiens est vraiment tout à fait reconnu, et en particulier, l'un des plus beaux travaux fut celui réalisé par Don Eugène Cardine, moine de la congrégation de Solesmes, lorsqu'il nous a donné le fameux traité de sémiologie grégorienne, un traité qui nous permet de comprendre et donc d'interpréter ces signes qui sont bien antérieurs à la notation musicale et que l'on appelle les neumes.
Ludovic Le Guen, vous vouliez réagir avant qu'on fasse une première pause musicale?
Oui, alors c'était sur la précision qui était donnée sur le travail de restauration. C'était difficile, tout simplement parce que il y avait déjà une édition officielle de l'Église, la Médicéenne pour le mot en question. Et donc, tout le travail de restauration vient finalement contester une édition existante. Donc, ça a été tout le travail de Solesmes, qui est encore en cours, par ce qu'on appelle l'atelier de paléographie musicale, le fait d'aller chercher, comme on disait à l'instant, dans les manuscrits de l'Europe entière. Et donc, Guéranger a envoyé ses moines dans l'Europe entière pour photographier les manuscrits et retrouver les neumes, donc les écritures, du rythme qui sont contenus dans les manuscrits anciens. Et tous ces éléments-là ont permis effectivement de prouver, via des comparaisons, de prouver effectivement que les travaux menés par Solesmes sont plus justes, sont plus proches des sources de ce qu'a été la création du chant grégorien au 8e siècle que ce que nous avait légué l'histoire, et donc les aléas, des corrections des uns et des autres, la perte du rythme dans les écritures musicales au fur et à mesure, etc. Mais c'est un sujet qui est assez long, mais voilà.
Le chant grégorien continue donc d'être aujourd'hui encore un élément d'unité de la liturgie romaine. Ça, c'était Saint Jean-Paul II, qui a déclaré cela, et Benoît XVI, par la suite, n'a pas dit autre chose. On va faire une première pause musicale qui ne sera pas du chant grégorien, mais après, on va écouter quelques extraits que vous avez sélectionnés, et puis vous les commenterez, vous nous aiderez à rentrer dans ce chant.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte du chant grégorien, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Clarisse Chantelot, qui est responsable de l'atelier grégorien de l'Institut catholique de Toulouse, Ludovic Le Guen, qui est maître du chœur grégorien de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, et Pierre-Marie Barthès, prêtre du diocèse de Toulouse, organiste de la cathédrale Saint-Étienne et ancien directeur national et Midi-Pyrénées de la musique liturgique. On va donc écouter quelques extraits dans cette deuxième partie d'émission que je vais vous laisser commenter. Clarisse, vous allez nous les introduire. Le premier, c'est celui donc qu'on a écouté tout à l'heure. Vous pouvez nous redire de quoi il s'agit avant qu'on le réécoute.
Alors, on a écouté donc une antienne qui précède le chant du psaume des Vêpres. Donc, si on pouvait entendre le psaume qui est juste après l'antienne, on pourrait comprendre un petit peu la formation de cette psalmodie en antiphonie, c'est-à-dire avec l'alternance de deux chœurs qui se répondent sur quelques notes pour proclamer le psaume, et qui est la première forme de chant la plus ancienne.
Alors on va écouter et puis après vous allez recommenter. Alors, Clarisse Chantelot, redites-nous, pourquoi donc, vous avez fait ce premier choix ?
Donc ce choix, c'était pour faire entendre la psalmodie, c'est-à-dire la cantillation du psaume. On est ici sur une psalmodie solennelle, puisqu'elle concerne le Magnificat, qui est le cantique de l'Évangile. Donc le procédé, c'est l'alternance entre les deux chœurs, avec une note principale, qui va être la note où sont dites les majorités, la majorité pardon, des mots du texte. Une introduction à la phrase, la petite vocalise sur Magnificat, et à la fin de la phrase, la voix qui descend et qui va donner la sonorité du mode, puisqu'il y a plusieurs façons de chanter la psalmodie, et c'est la façon de terminer la phrase qui est caractéristique d'une façon de chanter.
Pierre-Marie Barthès, ça vous semblait important de commencer par celui-là aussi pour redire la place des psaumes dans ce chant?
Oui, tout à fait. C'est un très bon choix d'entendre justement cette psalmodie, même si c'est une psalmodie solennelle, comme l'a dit Clarisse. Nous sommes avec le Magnificat, c'est-à-dire le Cantique de Marie, qui est le sommet de la prière du soir de l'Église, l'Office des Vêpres. Mais nous avons là donc ce principe de la psalmodie, cette cantillation, ainsi l'a-t-on nommé, sur ce qu'on appelle une corde de récitation, une ligne. Et puis on y grimpe sur cette ligne, on en descend, mais on revient toujours sur cette ligne de chant. Comme on le disait tout à l'heure, le chant grégorien, il est simple. Et c'est cette simplicité qui fait sa beauté, sa séduction. Le chant grégorien est beau par tout ce qui n'y est pas. Voilà, il est a cappella, il n'y a pas de complaisance vocale, il n'y a pas de lyrisme.
Complaisance locale, vocale, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire le plaisir d'un lyrisme, la jouissance de
on faire... s'efface derrière,
voilà,
quelque part derrière
tout
le texte,
à fait, c'est très très juste, car ces mots ne sont pas nos mots, ils nous sont donnés par Dieu, et nous les lui remettons. Et donc, s'il y avait une complaisance quelque part lyrique, eh bien, il serait un petit peu frelaté. Cette relation serait un petit peu souillée. Et le chant grégorien nous permet justement, et tout musicien au service de la liturgie, je dirais presque tout chrétien qui célèbre, devrait un jour avoir trempé un petit peu complètement, s'être baigné dans le chant grégorien pour comprendre comment doit être notre propre posture dans le chant d'église.
Je propose qu'on écoute un autre extrait. Je vais vous laisser aussi, Clarisse Chantelot, puisque c'est vous qui les avez choisis, l'introduire. Donc, le Gloria Ambrosien. Alors, allez-y, introduisez-le et puis on va l'écouter.
Alors, le Gloria Ambrosien, donc, on va reparler de cette corde de récitation, puisque c'est un chant cette fois-ci qui fait partie de ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, c'est-à-dire les textes qui sont chantés tous les dimanches, mais sur un mode un petit peu particulier. Il n'y a pas le Gloria, par exemple, des anges qui est le plus souvent chanté dans les églises encore actuellement quand on parle de Gloria grégorien. Donc celui-ci a la principale partie du texte sur une note et on entend à la fin de chaque phrase une petite vocalise qui donne la couleur modale à ce chant.
Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi.
Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre le choix des mots sur lesquels se portent les vocalises, puisque le chant grégorien va toujours nous porter à réfléchir sur le texte qu'on est en train de chanter. Donc vous avez vu peut-être la première vocalise s'est placée sur le mot « tibi », et ensuite il y a les vocalises sur le mot « Jésus Christ », c'est-à-dire « tibi » à toi, nous te chantons, toi Seigneur, Jésus-Christ. Et donc à chaque fois, cette habitude de mettre en valeur un mot va revenir au fur et à mesure de la composition du répertoire durant les siècles.
Ludovic Le Guen, est-ce que ça attire un autre commentaire? J'imagine qu'il y en a de multiples.
Oui, beaucoup, beaucoup. On touche là effectivement la simplicité du répertoire grégorien, au moins dans son fond antique. Simplicité, sobriété, pas d'artifice, comme on disait tout à l'heure. Finalement, un chant qui nous porte à l'humilité naturellement, et qui nous met en lien aussi avec l'Église, parce que c'est le texte qui prime, donc l'Église de toutes les époques et de tous les continents, par justement cette simplicité et des choses qui peuvent nous rassembler par leur beauté, tout simplement.
Allez, un troisième, cette fois, c'est vous qui allez l'introduire, puisque c'est vous qui l'avez choisi, c'est un offertoire.
Tout à fait. Alors, un offertoire, c'est un petit peu un coup de cœur pour moi. C'est un disque que j'ai écouté sur Internet et qui, je crois d'ailleurs, était complètement épuisé. C'est une colonie d'enfants. Donc, des enfants qui sont venus pour les vacances d'été pour apprendre le grégorien, qui ont travaillé leurs pièces pendant peut-être les 15 jours de la colonie et qui...
Et bizarrement, c'est pas si courant, c'est ça? En général, on associe plutôt ce chant à un cœur d'homme, voire parfois à des cœurs de femmes.
Mais... Oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que faire travailler les enfants, alors, il y a un travail vocal qui est assez intéressant, mais il y a un rendu qui, pour des enfants, est quand même assez époustouflant, je trouve. Et puis, tout simplement, voilà, c'est toute la fraîcheur des voix d'enfants. La simplicité et la sobriété est liée aussi, même si on est sur un offertoire. L'offertoire, c'est partie des pièces les plus complexes, les plus denses, les plus travaillées, les plus profondes aussi. L'offertoire, c'est le moment où on prépare les offrandes.
C'est, voilà, et j'allais
on,
dire.
On fait une offrande vocale au Dieu qui va arriver dans le sacrifice de l'autel.
Allez, on l'écoute.
Alors là, justement, à cet
endroit-là... On s'est trompé, mais c'est pas grave, c'est aussi un offertoire. Et ce sont des voix de femmes, on a quand même reconnu...
Oui, mais je suis contente aussi qu'on entende des voix de femmes chanter du grégorien, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la réflexion en m'occupant de chant grégorien, que comment se faisait-il que des femmes puissent chanter du chant grégorien?
On sait que l'Église est une affaire d'hommes, c'est bien connu.
Voilà, mais en fait, les femmes en ont chanté depuis longtemps, depuis l'origine du chant aussi, ce répertoire. Sur cet offertoire, on a un énorme développement de vocalise qui est sur 5 notes, donc les racines modales qui sont dans toute la musique du monde. Et ici, normalement, on peut entendre ce jeu avec la résonance dont on parlait tout à l'heure à propos de la polyphonie. En particulier sur la vocalise jubilatée, justement, qui exprime la jubilation.
Alors, est-ce que vous pouvez, à ce moment-là de l'émission, peut-être redire ce que vous me partagiez pendant la pause musicale? C'est que donc c'est chanté a cappella, c'est-à-dire on fait avec l'Église et avec le bâtiment. C'est une autre manière, en fait, de faire en sorte que l'homme soit à sa place, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que c'est important?
C'est important dans la mesure où c'est ça qui va permettre de rentrer en communion, pas seulement les personnes qui chantent, mais... tout le peuple qui est des fidèles qui est rassemblé dans l'église au moment de l'offertoire. Donc il y a ce mouvement de préparation des dons, en général l'encensement, qui répond, dont la vision de la fumée répond pas mal aux vocalises qu'on trouve dans les offertoires. Et de se placer dans l'édifice, d'entendre l'édifice qui répond en quelque sorte au chant par la résonance naturelle des voûtes, ça donne l'atmosphère entière, la couleur d'une célébration. Si c'est propre à un lieu, c'est aussi propre à une heure, parce que les voix n'ont pas la même sonorité en fin de journée, par exemple quand on chante les vêpres solennelles à Saint-Sernin, que tout à l'office de nuit, à l'office des ténèbres, pendant la semaine sainte, etc.
Incroyable, les voix n'ont pas la même texture selon les heures, et puis vous me disiez aussi, donc, selon aussi les bâtiments, il y a parfois une note qui porte plus qu'une autre. Pierre-Marie Barthès, pourquoi est-ce que c'est important, je vous repose la même question, mais à vous, que ça soit a cappella comme ça, voilà, d'être à sa place, y compris dans l'édifice?
C'est un chant a cappella d'abord parce que lorsqu'il est né, il n'y avait pas d'orgue dans les églises. L'orgue est entré très bien tardivement dans les églises et officiellement très tard aussi. Et donc, c'est un chant a cappella, le chant grégorien, car il permet de se mettre en résonance avec un édifice qui est une mémoire. Le danger, bien souvent, c'est d'imposer, de s'imposer en tant que musicien à un édifice. Et si parfois on est un petit peu déçu par les faits, c'est parce que nous rendons par notre chant, notre chorale, nos instruments, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'épouser un lieu, de le comprendre, ce lieu, comment moi-même je dois me situer par rapport à un lieu, par rapport donc à sa résonance, puisque nous parlons de musique. Et quelque part, on retrouve ici ce que doit être l'acte de chant dans un lieu, et dans un lieu sacré, lorsque surtout on parle de chant sacré, quelque part il y a une dimension d'humilité aussi. Très souvent, on a souvent en notre mémoire et sous nos yeux la merveilleuse abbatiale de l'abbaye du Touronnet en Provence. Alors si au Touronnet on veut chanter une polyphonie de la deuxième moitié du XVIe siècle, de Palestrina en Vittoria, c'est une catastrophe planétaire. Voilà, tout simplement parce que ce lieu, il a été fait pour la mélodie, pour la monodie grégorienne. Tout simplement, il faut prendre le temps de comprendre un lieu. Et ainsi, on se situe, nous, les célébrants de 2021, eh bien, non pas comme une entité de ce siècle, mais vraiment dans la dynamique de toute une communauté qui célèbre et qui s'origine dans la célébration et par la célébration du Christ lui-même.
Alors on va écouter un quatrième extrait, je vous laisse l'introduire, Clarisse Chantelot, en l'occurrence, donc le Salve Regina, c'est enregistré à l'abbaye de Fontfroid,
Oui, exactement, donc cette abbaye qui n'est pas très loin de nous à Toulouse. Alors le Salve Regina, c'est un chant qui est en général dans toutes les mémoires, auparavant on chantait à la fin des Vêpres, comme salutation à la Vierge. Ici, on a la version cistercienne, c'est cet extrait que nous allons entendre. Et on va avoir la particularité aussi d'entendre la résonance de cette abbaye, puisque la prise de son a été faite pour essayer de restituer sur le disque la résonance qu'on peut avoir sur les lieux quand elle est quasiment vide.
Vas-y. Pardon, c'est les détails techniques. Alors, de fait, vous disiez que ça avait été enregistré pour voir quelle est la résonance de l'église, c'est ça? On l'entend, là, en tout cas.
Voilà, enfin, la prise de son été faite pour permettre d'avoir, en écoutant le disque, une restitution de la résonance naturelle qu'on a quand on est sur place dans l'édifice.
Il y a presque l'impression que c'est une autre personne qui chante, ou en plus, enfin, qu'il y a l'édifice qui chante à sa manière, en tout cas.
C'est ça, et on entend cette persistance des notes au moment où les chanteuses sont déjà sur une autre note. Donc ça forme presque un accompagnement polyphonique. On a à peu près 5 secondes en résonance naturelle, pour vous donner une idée. Donc là, on n'a pas tout, mais quand même une bonne partie. Et donc on a des notes d'appui qu'on appelle les notes modales. C'est celles où on va poser la voix. Et des notes rapides qui sont les notes ornementales, qui servent à mettre en valeur la direction de la phrase, un mot en particulier, un accent, donc tout le sens, tout ce qui est le sens du texte, qu'on va chanter plus ou moins rapidement en fonction de l'édifice où on se trouve et du mode, c'est-à-dire de l'échelle sur laquelle est basée la pièce en question. Voilà, ça c'est la note finale qu'on vient d'entendre, par exemple, donc c'est la note d'appui du mode. Ici, on est sur note de récitation.
Alors peut-être est-ce parce que c'est un chant qui est en latin, mais comme je le disais en introduction, c'est vrai que pour les rares fois où on a pu, certains sont peut-être habitués, mais pousser des portes d'abbaye où ce chant est donné, ou alors participer à des chœurs ou assister à certaines des liturgies animées par l'un ou l'autre des chœurs qui ressemblent au vôtre, ça donne une impression de quand même d'éternité. Alors est-ce là aussi quelque part la vertu de ce chant, de parler, on va dire, de la tradition, comme on dit, de cette réalité qui est qu'on hérite de quelque chose, que quelque chose nous survivra. Est-ce que vous êtes sensible à cela, Ludovic Le Guen ?
Oui, énormément. Énormément, parce que tout simplement, le chant grégorien, c'est avant tout le chant des psaumes, et c'est le Christ lui-même qui, à la synagogue, aussi chantait, priait des psaumes comme ses conreligionnaires de l'époque, entre guillemets, si on peut se permettre l'expression. Donc on a vraiment cet enracinement, cette continuité dans l'évolution du chant d'église depuis le chant de la synagogue qui se retrouve dans les substrats du chant grégorien.
C'est-à-dire, alors là, il faut que vous nous expliquiez.
On parlait tout à l'heure de cantillation, par exemple. On est à l'origine sur de la psalmodie, sur le chant des psaumes. Et beaucoup le chant des psaumes qui vient faire cette... on est bercé par tous les sentiments qu'il y a dans les psaumes qui nous permettent d'exprimer, quel que soit notre état d'esprit actuel, on a dans les psaumes tous les éléments pour pouvoir exprimer à Dieu ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de partager, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit la Bible est pleine de sentiments et le fait que le grégorien le mette en évidence, c'est effectivement toute la richesse qu'on en tire. Donc on a cette continuité depuis le chant de la synagogue jusqu'à aujourd'hui avec les enrichissements des différentes époques. On a plusieurs époques de composition. On a vu les époques de décadence, hein, où le chant grégorien a été corrigé par les uns en fonction de leurs sentiments du moment. Et puis la restauration depuis le 19e, dont Guéranger en parlait tout à l'heure. Mais c'est vraiment un produit de l'Église, l'Église qui l'a créé, qui l'a transmis, qui l'a enrichi. Et on est dépositaire de ça. On a à le faire vivre et surtout à en vivre.
Pierre-Marie Barthès, est-ce qu'il y a une mauvaise manière justement de regarder ce chant, c'est de se dire c'est le chant des tradis, pour faire très caricatural, et qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui ont ces a priori?
Alors c'est très malheureux de réagir ainsi, très réducteur, et donc il faut gommer aussitôt cette réaction. Je dirais que le chant grégorien, c'est le chant de la mémoire. C'est l'incontournable, c'est l'outil premier que l'Église nous donne aujourd'hui, toujours, en 2021, pour célébrer. Voilà. Et donc,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les églises, quelque part, il devrait y avoir un chœur de chant grégorien? Je vois les autres invités presque sauter sur leur chaise. Mais...
C'est le chant de l'Église, toujours, aujourd'hui. Et donc, on ne va pas partout célébrer avec le répertoire grégorien, bien sûr, mais tout chef de chœur, tout choriste, me semble-t-il, et là c'est l'ancien directeur de musique de la Conférence des évêques de France qui parle, doit avoir pratiqué un jour le chant grégorien pour comprendre ce que doit être notre posture dans le chant d'église aujourd'hui. Comme nos autres invités nous l'ont rappelé, c'est un chant humble, un chant modeste, un chant qui nous fait rentrer dans la célébration du mystère et dans la mémoire. Voilà. Et ça, c'est important. Le danger, c'est de faire beaucoup trop de musique dans la célébration aujourd'hui. Et le chant grégorien sera un garde-fou pour nous permettre de ne pas sombrer dans la complaisance d'un bien-être musical. Et c'est le musicien qui parle, et je suis sûr que Clarisse ne me contredira pas. Voilà. Et donc... Le chant grégorien est incontournable pour comprendre ce que doit être le chant d'église.
Alors le chant grégorien est-il aussi l'occasion d'un chemin spirituel? Est-ce que vous, ça nourrit, alors quelque part on a déjà un peu entendu la réponse, mais est-ce que vous pouvez en témoigner au regard comme ça de peut-être la manière dont vous êtes rentré dans le chant grégorien, dont vous l'avez découvert, ou alors dont elle a nourri votre vie de foi au long des années de pratique ou de responsabilité? Ludovic Le Guen, si on commence par vous, qu'est-ce que vous diriez, quelle place ça a dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle?
Pour moi, le chant grégorien, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'expression par l'Église, c'est le commentaire par l'Église des textes de la messe. Donc si on veut bien comprendre la messe, si on veut bien comprendre ce qui se passe à la messe, et même dans le temps liturgique, hein, on vient de sortir du temps de Noël par exemple, on va arriver bientôt, dans quelques temps, dans le temps du carême, si on veut être pétri par l'Église, si on veut être obéissant à l'Église, et comprendre ce que l'Église nous donne à vivre au cours de l'année liturgique, il faut qu'on en comprenne la substance.
Mais essayez de parler à la première personne, de dire « je », c'est-à-dire vous, comment vous êtes rentré dedans, ou si...
Alors,
On va dire c'est indispensable à votre vie spirituelle.
Si je veux comprendre la messe, si je veux pouvoir diriger mes choristes, il faut que j'aie médité sur le texte. Il faut que je le comprenne. Alors je connaisse plutôt bien d'un point de vue de mélodie, mais surtout que j'arrive à exprimer le mystère qui est à l'intérieur. C'est pour moi indispensable. Le grégorien est prière. C'est la liturgie elle-même. Et en tant que chanteur, nous avons presque un ministère. On participe pleinement à la voix de l'Église. On prête notre voix à l'Église. Donc, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est indispensable. Quand je prends un missel, je regarde le texte du jour, je ne peux pas m'empêcher d'avoir la mélodie qui ressort, parce que je la connais. Mais surtout parce que, pour moi, c'est la mélodie elle-même. Avant même que ça soit noté, c'est cette méditation, c'est cette transmission orale qu'il y a eu pendant des siècles. Au moins un siècle. Donc,
Pierre-Marie Barthès, vous vouliez réagir. Et si vous deviez parler aussi un peu à la première personne du singulier, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors que d'abord, que je suis tout à fait d'accord avec Ludovic, bien entendu. Et le chant grégorien nous permet de savourer le mot. Notre liturgie est une liturgie de la parole. Et la mémoire que l'on doit avoir, eh bien, c'est ces mots que Dieu nous a donnés pour permettre de le célébrer. Et le chant grégorien nous permettra d'avoir cette mémoire. Si je ressors d'une célébration en ayant une mémoire musicale, la mémoire d'un bon moment musical, comme si je vais au Capitole ou à la Lograine de Toulouse, où je suis bien parce que j'ai écouté Traviata de Verdi, voilà, eh bien, c'est les dés sont pipés. Le chant grégorien nous permet de rentrer dans la mémoire du mot, de savourer la parole de Dieu.
Alors, si je me permets, on a entrevu cela, mais est-ce que vous, si vous ne parlez pas la première personne du singulier, vous avez vu des gens qui ont fait de fait un chemin spirituel, un chemin vers Dieu, et pour qui ça a commencé, par exemple, par le chant grégorien ?
Bien sûr, tout à fait. Un ami très cher qui, un jour, est entré dans l'abbaye bénédictine de Foncombeau, dans l'Indre, et il a entendu tout simplement les moines chanter « Deus in adiutorium meum intende ». Dieu vient à mon aide. Et donc là, il a été saisi, bouleversé. Il était rentré là pour vivre une expérience esthétique, l'admirable abbatiale de Foncombeau, les moines bien alignés dans les stalles, la beauté du chant grégorien telle qu'elle est pratiquée à Foncombeau. Et il est ressorti tout simplement en ayant vécu une expérience spirituelle. C'est même moi ce que j'ai vécu moi en 1983 lorsque j'ai poussé pour la première fois les portes de l'abbaye de Solesmes.
Alors allez-y, racontez-nous.
Ben oui, j'étais venu.
Il aura fallu deux questions pour vous nous
voilà,
disiez.
Ça y est,
vous partagez, c'est fait.
On n'ose jamais trop se dire. Et donc j'étais jeune enseignant à la faculté du Mirail en musicologie. Et donc, j'avais toute une série de cours à donner sur le chant grégorien. Ouh là là, alors je me suis dit, je suis complètement, je n'ai aucun outil en mes mains, etc. J'avais lu les livres, tout ça, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille à l'abbaye de Solesmes. Voilà, un petit peu la centrale nucléaire du chant grégorien. Et donc j'y suis allé, voilà, avec plein de sûreté, avec l'arrogance de la jeunesse, les diplômes et tout ça. Et j'étais allé pour un séjour tout simplement
d'observation,
l'atelier de paléographie dans lequel j'avais eu le bonheur de pénétrer, etc. Et puis tout d'un coup, tout a basculé, parce que j'ai tout compris, ou j'ai presque tout compris en écoutant, en me laissant prendre par cette grande communauté bénédictine Solesmes, par ces moines qui priaient, et qui priaient par l'essence et dans l'essence de la grâce du chant grégorien. Et l'office qui m'a le plus séduit, manipulé, je dirais même, à Solesmes, ça ne va pas être, pardonnez-moi Ludovic, les grands offertoires, les grands graduels, ça a été le moment des matines à Solesmes, avec le recto tono des 6 psaumes de chaque nocturne. Alors là, j'ai été bouleversé et lessivé.
Eh bien, on va finir en réécoutant un extrait. Ce ne sera pas celui que vous venez de citer. C'est donc le chant à la Vierge, le Salve Regina, pour conclure cette émission. Thank you. Eh ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour nous faire découvrir donc le chant grégorien. On sent qu'il y a un monde qui s'ouvre. Merci à vous de nous avoir introduits dans cette grande cathédrale. Il y a encore du chemin, bien des choses à découvrir. On peut, j'imagine, se tourner vers l'Institut catholique de Toulouse pour participer à votre atelier de chant grégorien ou participer à votre... vous voulez donner l'information pratique.
Là, dans les témoignages qu'on vient d'écouter, ce qui ressort, c'est que finalement, l'écoute du chant grégorien est peut-être sa première approche. Donc, vous alliez peut-être le dire, mais je voulais rappeler justement qu'il y avait des offices toutes les semaines à Saint-Cernin, les vêpres grégoriennes suivies de la messe une fois par mois, également à
les
la
horaires,
cathédrale.
Donnez les horaires.
Alors, les vêpres sont à 17h45, suivies de la messe à 18h30 à Saint-Cernin.
Dimanche
Les dimanches soirs. Et concernant la cathédrale Saint-Étienne, donc aussi une fois par mois, il y a la messe qui est embellie par le chant grégorien à la chapelle Saint-Jean-Baptiste Ludovic. C'est
le rendez-vous, donnez un rendez-vous simple.
Tous les dimanches est fête à 9h15, le dimanche. Donc.
Dimanche est fête, 9h15, ça c'est pour la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Et donc pour Saint-Cernin, c'est
17h45, les vêpres, deuxième dimanche de chaque mois.
À la limite, on peut dire aux auditeurs, venez écouter et venez vous former dans les chœurs respectifs.
Et puis on imagine qu'ailleurs dans la région, il suffit de se tourner vers les services diocésains et vous serez, on va dire, réorienté vers probablement les ateliers grégoriens ou les chœurs grégoriens qui existent dans vos diocèses. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.